Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vocation Maritime. La pêche, le commerce, les cultures marines ou encore la plaisance, des termes qui nous semblent bien souvent familiers sans réellement savoir ce qui se cache derrière. Et pourtant, ce sont bien des milliers de personnes en France qui se lèvent chaque jour pour s'engager dans les métiers de la mer, qui sont souvent des métiers de passion. Pour mieux comprendre ce milieu souvent méconnu, nous allons rencontrer des personnes qui ont fait le choix du maritime. Élèves, anciens élèves devenus professionnels, enseignants, tous en lien avec les formations du lycée maritime de Cibourg, dans le Pays Basque, qui est l'un des 12 lycées maritimes du territoire français. Ils nous expliqueront leur vision des métiers de la mer, leurs attentes et ce qui les motive chaque jour dans la pratique de ces métiers riches et engageants. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode avec Océane, professionnelle en Corse. Océane, ancienne élève du lycée maritime de Cibourg, aujourd'hui professionnelle dans le transport à passagers en Corse. Donc après un passage au lycée maritime de Cibourg, Océane a connu un parcours qui se résume en un mot, la diversité. La diversité géographique d'abord, de Cibourg à Boulogne-sur-Mer, en passant par Marseille, le Maroc et encore bien d'autres. Ou la diversité des navires, trainières, bateaux de croisière, navires de chantier, de transport de marchandises, ou dans le milieu de la course au large. Donc avec elle, nous reviendrons sur son parcours d'une grande richesse, ses différentes expériences professionnelles et sur les éléments qui l'animent chaque jour pour vivre de sa passion. Bonjour Océane.
Bonjour Edgar.
Avec toi, du coup, on va commencer comme traditionnellement dans le podcast par ton parcours. Donc est-ce que tu peux nous présenter ton parcours un peu depuis le lycée de Cibourg, le point de départ jusqu'à aujourd'hui? Je sais que c'est très riche.
Allez, ça va. Donc j'ai fait mon cursus au lycée maritime, donc j'ai passé le capitaine 200 et le capitaine 500 à l'école de Cibourg.
Ok.
Et donc en stage, parce qu'en fait pendant la scolarité on a des stages à faire, donc j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait un au pilotage de Brest, c'était très chouette, sur un transport de marchandises à la voile, on est parti du Portugal et on a été jusqu'aux Pays-Bas, très bonne expérience. Sur un navire de mission écologique, on avait fait Lisbonne-Madère, et sur un navire de croisière Latitude Blanche, Polar Fonte. C'est un navire de croisière exclusive,
donc on prend
10 passagers pour aller dans le Grand Nord. Et donc j'ai fini mon cursus en juin 2020, enfin mon capitaine 500.
Ok.
Et alors après ça, par la suite, juillet-août, j'ai fait les compétitions de trainière, c'est de la rame basque. On en faisait 6 fois par semaine et ça me tenait vraiment à cœur de faire ces compétitions et de rester jusqu'à la fin de mon engagement au Pays Basque. Et après ça, donc j'ai devé faire un contrat sur Polar Fonte encore, donc ce fameux navire de croisière dans les latitudes polaires. Et j'avais signé pour le Groenland, le Svalbard, le Spitsberg, enfin un beau contrat pour un premier contrat après les études.
Effectivement, oui.
Sauf que c'était la période la fameuse période des confinements jadis. Et donc on n'a pas pu partir, donc le navire est resté en chantier à Boulogne-sur-Mer. Sauf que voilà, je m'étais engagée et ça me tenait, enfin j'avais envie de le faire quoi. Donc je suis restée chez eux, j'ai fait un petit contrat chez eux. Et après, j'ai fait donc la transatlantique aller, puisque c'était la pleine période des confinements, juste parfait pour faire la transat.
Bah ouais.
Et puis en arrivant aux Antilles, je suis restée un peu aux Antilles pour découvrir, etc. Et en rentrant en métropole, j'ai été à la Méridionale. Donc la Méridionale, c'est un ferry qui fait ou bien Marseille-Corse ou bien Marseille-Maroc. Et donc moi, j'étais basée sur un navire où on faisait Marseille-Maroc, 3 semaines de terre, 3 semaines de congé, plus ou moins.
Ok.
Et j'étais matelot de carte passerelle, c'était très chouette, ça m'a beaucoup plu, j'ai appris plein de choses.
D'accord. Et ça consistait en quoi exactement pour les gens qui nous écoutent?
Alors le matelot de carte passerelle, en gros, c'est vous travaillez donc par tranche de 4 heures, donc 2 fois 4 heures dans la journée. Et moi, en général, je faisais minuit 4 heures du matin et midi 16 heures. Et en fait, vous êtes en passerelle avec un lieutenant, et en fait, vous êtes les yeux et les oreilles de la passerelle, c'est-à-dire que vous devez annoncer tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, si jamais il y a un navire ou quoi, si jamais on les entend, etc., annoncer les migrants, etc. Et en fait, selon le lieutenant qu'on a avec nous et selon nos envies, on peut vraiment participer, par exemple faire les points sur la carte, checker le radar, faire les appels VHF, enfin vraiment participer à... En fait, c'est la c'est conduire le navire, en gros.
D'accord, ok.
C'est le copilote, quoi.
D'accord.
Et après ça, donc j'ai fini fin janvier. Et février-mars, j'ai fait un stage pour une team de course au large, qui fait le Vendée Globe, du coup, et qui fait plein d'autres courses avant. Et c'était vraiment chouette, ça m'a vraiment beaucoup plu, parce que c'était un de mes rêves, et je pensais jamais que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu y accéder. Et donc, j'ai fait ça février-mars, mi-avril. Et là, maintenant, je suis en Corse pour valider mes temps d'officier, afin de pouvoir accéder au Capitaine 3000. Donc, je suis là jusqu'à fin octobre. Et dès que je pars de la Corse, le lendemain, je suis dans le ferry pour aller à Saint-Malo, pour aller préparer l'IMOCA de mon skipper du Vendée Globe, du coup, pour faire la route du Rhum. Donc, j'ai très, très hâte d'y aller.
Ouais, et puis changement d'ambiance, du coup, entre la Corse et Saint-Malo.
Ouais, mais je suis bretonne, donc j'ai juste trois.
Voilà, retour aux racines.
Ça.
Ok, et du coup, le Capitaine 3000, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est la suite du Capitaine 200, 500, etc. Et ça prépare, du coup, au commandement d'un navire.
C'est ça.
D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est l'un des plus hauts haut diplômes en termes de capitaine.
Bah, c'est vrai que, disons que le certificat matelot pont, le Capitaine 200 et le Capitaine 500, c'est dans un type d'école, c'est pour une type de branche. Mmh. Et le Capitaine 3000 et le Capitaine illimité, donc le Capitaine illimité, c'est le dernier que, évidemment, je veux aller passer plus tard. C'est pour être officier sur les gros navires, en fait. Et du coup, c'est un autre type de métier.
Oui, parce que, et puis là, on peut dire que du coup, t'as fait un peu toutes les strates, on va dire, hiérarchiques, du matelot de pont à bientôt Capitaine 3000, en tout cas.
Du stagiaire matelot.
Ah, stagiaire matelot, pardon. Bah, jusqu'au haut du panier, si on peut dire, avec le Capitaine 3000.
Pour l'instant, j'ai juste fait une stagiaire, après j'ai fait matelot, et là, je suis sur un bateau de promenade en mer où je suis seule, effectivement, mais, en fait, oui, c'est vrai que, enfin, on peut faire l'école d'officier directement et j'aurais beaucoup aimé le faire. Je m'en suis rendu compte un peu tard parce qu'avant ça, j'étais dans la restauration avant de décider de rentrer en marine marchande. Donc voilà, j'ai dû recommencer à zéro. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le fait d'avoir commencé en bas de l'échelon et je veux jamais aller en haut de l'échelle. Hein, mais enfin, le jour où je serai lieutenant, au moins quand je demanderai des choses au matelot, je l'aurais fait auparavant et je trouve ça plutôt respectueux et ça permet de connaître vraiment ce que je demande. Enfin, c'est chouette, oui, de faire... J'aime bien pas griller les étapes, quoi.
Oui, puis c'est vrai que ça te permet d'être connecté aussi aux gens à qui tu demandes une tâche. Oui. Tu sais en quoi cette tâche consiste et
ce qu'elle apporte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me griller de une heure ou comme ça. Non, je plaisante.
D'accord.
Parce que je l'aurais fait avant, donc je sais.
Oui, c'est clair. Donc aujourd'hui, tu fais du transport à passagers en Corse. Donc,
oui.
Même si, voilà, on sait que dans les milieux maritimes, le quotidien, c'est quelque chose d'assez abstrait. Mais oui. Si devait y avoir une journée, entre guillemets, classique pour toi aujourd'hui en tant que professionnel en Corse, qu'est-ce que ce serait?
Alors, une journée classique en Corse. Alors, du coup, en Corse, ça dépend de la météo. Par exemple, aujourd'hui, on a mauvaise météo. Donc, aujourd'hui, je suis en day off. Je peux faire un podcast avec mes copines. Mais du coup, si la météo est bonne, je suis en mer. Hein. Je fais la promenade avec mes passagers, etc. Enfin, je suis dispo pour mon armateur. Et puis, en dehors de la Corse, c'est vrai que je fais tout pour que mon planning puisse coller mon planning de jour de mer puisse coller aux inscriptions de l'école pour aller au Capitaine 3000.
Voilà. D'accord.
Le planning.
Donc là, on a vu que t'avais pas mal voyagé, bougé, connu pas mal d'expériences. Mais initialement, même avant Cibourg, qu'est-ce qui t'a attiré vers les métiers de la mer?
Eh bien, ce qui m'a attiré vers les métiers de la mer, premièrement, en fait, je suis insulaire, j'habite sur une île en Bretagne. Mmh. Et je pense que ça, inconsciemment, ça a dû y participer, je peux pas le nier.
Ouais.
Mon père était pêcheur, enfin voilà, je pense que j'ai un peu baigné dans des conversations où la mer c'était pas anodin.
Ouais, t'avais déjà un pied dans le maritime, quoi.
Bah non, en fait pas du tout.
Ah.
Et alors vraiment, le maritime, ça m'intéressait, mais pas du tout, parce qu'à la base, moi, je voulais faire des études de météorologie.
D'accord.
Voilà. Et puis, en fait, j'avais pas mal d'amis marins à l'époque où j'ai voulu quitter la restauration et rentrer dans un nouveau métier. Et en fait, on discutait beaucoup, beaucoup de leurs études, de leurs aventures, etc. Et ça me donnait envie. J'en ai eu assez de vivre leur passion par procuration. Et je me suis dit, bon, ben allez, moi aussi, j'y vais, je me lance. Quand on veut, on peut. Il faut pas avoir de regrets dans la vie. Et je verrai bien si ça me plaît. Et aujourd'hui, je suis très heureuse.
Du coup, donc à la suite de ça, donc là aujourd'hui, t'es pleinement professionnel. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans le maritime? Quelle en est ta vision en fait du maritime d'aujourd'hui?
Bien, moi, ce qui me plaît dans le maritime, c'est que premièrement, on a un rapport au temps qui est différent. C'est-à-dire qu'on vit vraiment le moment présent. Être en mer, c'est super prenant. On vit clairement au gré des éléments. Hein, c'est le cas de le dire. Et bien souvent, on est coupé du réseau. Et du coup, ça crée une solidarité entre marins qui sont à bord. Et ça nous permet de vivre les instants pleinement. Et ça, c'est vrai que ça me plaît vraiment. Je trouve que c'est un peu ce qui manque à terre. Je trouve qu'on est un peu... Enfin, moi, la première, hein, je suis un peu trop sur mon téléphone et tout. Alors qu'en mer, enfin, en fait, nos collègues savent où on est. Il n'y a pas de questions à se poser. Enfin, tout est plus simple, en fait, je trouve, en mer.
D'accord. Ouais, c'est une forme de liberté en fait que t'as pas à terre.
Oui, c'est ça. C'est en mer, on voilà. Enfin, t'as envie de ça. Si la météo te le permet, tu le fais. Enfin, c'est juste magique, quoi.
ça fait envie en tout cas.
Oui. En fait, je trouve qu'en mer, si les choses sont simples, elles restent simples. On rend pas les choses simples compliquées en mer. Et ça me plaît.
D'accord. Ok. Donc, on va revenir un peu au début de ton parcours, donc avec le lycée maritime de Cibourg. Et tout simplement, pourquoi ce passage à Cibourg? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Cibourg?
Alors là, c'était vraiment la bonne époque, the best part of my life, je crois. l'école de Cibourg, avant Cibourg, j'ai fait deux autres écoles et je me sentais pas vraiment à mon aise. Et quand je me sens pas à mon aise, je vais voir ailleurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais... Enfin, en fait, j'ai toujours voulu aller au Pays Basque, premièrement. Je me suis dit, mais je vais postuler à l'école de Cibourg. Et j'ai été prise. Et de mon point de vue, c'est clairement de loin la meilleure. J'ai vraiment apprécié y étudier. Et j'ai vraiment eu la chance, de l'honneur, je dirais même, d'être l'élève de Monsieur Lekwena. D'ailleurs, je pense qu'il va écouter le podcast. Alors, je le salue et je viendrai bientôt vous voir au Pays Basque.
Le message est passé.
C'était un prof passionnant. Et il était vraiment dévoué pour ses élèves. Enfin, pour vous dire, il nous appelait en dehors des cours, il nous appelait le week-end, il nous appelait pendant les vacances. Pendant le confinement, il était venu m'apporter les cours pour que je les scanne et que je les envoie aux collègues de classe. Il nous prenait vraiment sous son aile. Et enfin, vraiment, aujourd'hui, je l'admire beaucoup et j'espère que plus tard... plus tard, j'espère être prof au Pays Basque. C'est vrai, je ne l'ai pas encore dit à l'école, je leur dirai un jour. Mais j'aimerais bien être prof au Pays Basque et j'espère que je serai aussi passionnée et... Je me donnerai autant que Monsieur Lekwena.
Donc ouais, tu retiens vraiment du coup l'accompagnement et la relation un peu presque familiale en fait que t'as eu à Cibourg.
C'est hyper familial, hein. Regardez, par exemple, enfin moi je faisais donc de la trainière, donc c'était le sport vraiment basque local et ça je pense que ça plaisait à plusieurs de mes profs dont Monsieur Lekwena. Et en fait, il me soutenait vraiment là-dessus et tout, c'était super chouette, c'était hyper familial et surtout l'école de Cibourg en fait. Les profs, ils sont passionnés pour la plupart. Et en fait, si vous avez envie d'apprendre et si vous avez envie d'aller de l'avant dans le métier et de vous poser plus de questions que sur le cours qui vous est donné, eh ben en fait, ils sont vraiment là avec grand plaisir. Et ben quand on veut, on peut. Et eux, c'est vraiment le cas. Ils se donnent vraiment. Et enfin, l'école de Cibourg, moi, j'ai juste trop à y retourner, quoi.
D'accord, bon bah j'espère que le message sera entendu. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui t'a plu au-delà du lycée dans le cadre à Cibourg
Alors, le Pays Basque. franchement, le Pays Basque, j'en ai des étoiles dans le cœur quand j'en parle. Le Pays Basque, c'est vraiment magique. Hein. Vous êtes entre océan et montagne déjà, culture et passion. Ça a vraiment été un coup de cœur. Moi, jusqu'à arriver aux Pays-Bas, j'étais un peu stressée parce que je savais pas où je voulais habiter plus tard. Et c'est vrai que je me suis, enfin, en ayant vécu le Pays Basque pleinement. Et je suis bretonne, donc vraiment, enfin, faire vivre la culture locale, la langue, les chants, les danses, ça me plaît vraiment. J'ai même appris un peu le basque, hein, avec la rame. Et en fait, c'est super festif et c'est super vivant. Et donc, je m'étais dit, mais c'est simple, voilà, je pars en mer, je pars faire mes temps de navigation pour accéder au plus vite au Capitaine 3000. Et dès que j'ai fini le Capitaine 3000, je viens m'installer au Pays Basque, en fait. Et en fait, voilà, cette année, j'ai découvert, j'ai fait un stage dans le milieu de la course au large. Ça me plaît beaucoup. Et voilà, le nid de la course au large, c'est en Bretagne. Donc, je vais essayer de continuer un petit peu. Mais si toutefois je persiste pas dans ce milieu, je rentrerai au Pays Basque. Parce que j'aime vraiment.
C'est vrai qu'on peut que louer les qualités du Pays Basque.
Ah, mais c'est magique, hein. C'est culinairement, géographiquement, enfin, c'est incroyable.
Je précise, voilà, on a préparé l'interview avant et j'ai beaucoup aimé ton approche et on va parler des femmes dans les métiers de la mer. Et du coup, tu me disais que, et je pense à juste titre, que ça ne devrait même pas être un sujet dans l'absolu puisque, en fait, ce serait juste normal. Mais aujourd'hui, on voit que ça avance un petit peu. La question des femmes dans le milieu de la mer, c'est une question qui prend place. Toi, quelle est ton approche par rapport à ça, par rapport à la féminisation?
Bah, ça, c'est vrai que c'est un sujet où, en fait, je reste toujours un peu, je sais jamais trop, en fait, voilà, comme tu l'as dit, ça devrait pas être un sujet, donc, c'est vrai que je suis toujours un peu, je panique un peu quand tu me poses la question parce que je sais pas trop quoi répondre. Je pense que, oui, effectivement, on est en 2022, les femmes ont envie d'être marins, et bah, elles sont marins. Oui, c'est vrai. Déjà, moi, je pense qu'il faudrait cesser de faire des différences hommes et femmes dans la société en général parce que c'est ridicule. Et en fait, bon, alors c'est vrai que je vais pas le nier physiologiquement, c'est nous qui portons l'enfant, etc. Mais et du coup, voilà, il faut le mettre dans ton planning de ta vie, plus ou moins. Enfin, voilà, c'est vrai. Mais en fait, être marin, ça nous offre une panoplie de métiers, un éventail assez large. On peut partir en mer plusieurs semaines de suite en ayant évidemment plusieurs semaines de suite des congés, ou alors on peut être à terre tous les soirs. En fait, ça dépend du type de navigation que vous choisissez. Vraiment, enfin, ça dépend des envies de chacun. Et moi, je pense que, enfin, être une femme à bord, il y a aucune différence. Donc, il faut arrêter de rendre les choses simples, les rendre compliquées. Le questionnement, être une femme marin, machin. En fait, souvent. Assez paradoxalement, c'est souvent fait par les personnes qui sont non marins parce que l'image collective, c'est être marin, c'est partir des semaines en mer. Mais pas du tout. Enfin, on peut être marin et rentrer chez nous le soir. Et du coup, ça me fatigue un peu ce « oui, les femmes marins ». Non, mais en fait, c'est pas parce qu'on est marin, femme, qu'on est différente des autres.
Oui.
Je comprends pas pourquoi c'est toujours un sujet. Enfin, moi, en fait, très souvent, hein, au moins une fois par mois, quand je rencontre des nouvelles personnes, ah, mais t'es marin, et du coup, quoi, en fait?
Bah, du coup, je me permets de lancer l'appel pour que ça ne soit effectivement plus une question, donc à toutes les,
ouais,
les jeunes filles, enfin, les gens, toutes les personnes, et jeunes hommes ou jeunes filles d'ailleurs, hein, qui veulent s'orienter vers les métiers de la mer. Et c'est vrai que tu en parlais, et notamment chez les gens qui ne sont pas du milieu, et avec toute cette, oui, image un peu et des peurs, et ça peut freiner des fois. Et toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur justement de s'engager dans les métiers de la mer ou dans le milieu maritime, justement, notamment à cause des peurs liées à l'image du maritime?
En fait, il faut cesser de s'arrêter aux idées reçues et qu'il faut voir plus large que l'image collective. Si un sujet nous intéresse, et bah, simplement, il faut aller se tourner vers les personnes concernées. Et, enfin, voilà, moi, quand le monde maritime m'intéressait, j'en ai parlé avec des marins. Et puis, au fur et à mesure, ça m'a plu. Et en fait, c'est simple. On n'a qu'une vie. Il faut faire ce qui nous rend heureux. Si on souhaite être marin, eh bien, on y va, on essaye. Si ça nous plaît, on continue. Si ça ne nous plaît pas, eh bien, on fait autre chose. Mais vraiment, c'est un métier passionnant. On a un large éventail de métiers devant nous, une large évolution aussi bien à terre qu'en mer. Donc, quand on veut, on peut. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Franchement, allez-y, vous ratez quelque chose si ça vous tente et si vous n'y allez pas. Il faut y aller. Et je veux dire, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais moi, je me posais des questions, j'y suis allée et aujourd'hui, enfin, j'ai juste plein de projets là-dessus.
Oui, non, effectivement. Puis d'après ce qu'on, enfin, de ce qu'on a vu et surtout entendu, c'est vrai que ça t'a permis d'avoir plein d'expériences de dingue, en fait, que les traversées, les transatlantiques, la route du Rhum, etc. Ça t'ouvre quand même des portes aujourd'hui qui sont assez exceptionnelles au final.
En plus, c'est vraiment un petit monde. Donc, une fois qu'on commence à se faire un réseau, enfin, c'est juste passionnant. On apprend, enfin, franchement, allez voir par vous-même. C'est tout ce que je peux vous souhaiter.
D'accord. On a parlé donc du monde maritime dans son ensemble et il y a une question qui revient souvent aujourd'hui, c'est les enjeux du maritime. Et toi, en tant que professionnel et personne pleinement investie dans le milieu, quels sont les enjeux selon toi du maritime, ou les nouveaux enjeux du moins?
Et ben alors ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais c'est vrai que je m'y connais pas vraiment. En fait, pour moi, l'avenir du monde maritime, et pas que d'ailleurs, c'est dans les énergies renouvelables. En fait, on a beaucoup, beaucoup d'énergie naturelle et il faut l'exploiter, enfin, que ce soit aussi bien le vent, la houle, les courants, le solaire. Enfin, aujourd'hui, voilà, tout ça.
Ouais, on est en mesure de l'exploiter.
On est en mesure de l'exploiter et, enfin, la preuve, hein, les voiliers, le monde maritime, ça a commencé par les voiliers. Et moi, je pense qu'en fait, il faut mettre les voiles, hein, que ce soit sur les cargos à voile, les foils, les kites, après. C'est vrai que c'est un rapport au temps différent, une fois de plus. Enfin, ça va prendre le temps que ça prendra. En ayant fait du transport de marchandises à la voile sur un vieux bateau, enfin, on n'a pas un ETA, donc ETA, c'est Estimated Time of Arrival. On n'a pas genre, on arrive le 24 juillet, non, potentiellement, on arrivera potentiellement le 22 ou le 26, parce qu'avec les énergies de la planète, il faut...
Oui, ce sera suivant les conditions, t'es plus soumis aux conditions...
Mais en fait, aujourd'hui, les énergies, on est dans les capacités. Enfin, voilà, je suis pas ingénieur et tout. Enfin, mais c'est pour ça que je m'y connais pas. Mais il y a des personnes qui sont formées à traiter ce genre de choses et ça commence gentiment et ça me plaît. Mais les énergies, je pense qu'il faut les transformer. Et, en fait, la Terre nous offre tellement de choses, il faut les exploiter.
Et puis c'est vrai que dans tes expériences, t'as connu plusieurs fois ce genre de type d'exploitation du maritime avec le transport à la voile ou l'expérience avec la compagnie Latitude Blanche qui, je crois, fait aussi souci beaucoup de la question écologique dans le transport maritime.
Et oui, effectivement. C'est vrai que c'est vraiment un sujet. Ça, pour le coup, c'est vraiment un sujet où il faudrait que tout le monde s'en soucie. Mais là, il y a pas mal de navires du type Zephyr et Bourré, etc., et Energy Observer, etc., ce qui transforme les énergies, et j'espère un jour avoir la chance de travailler sur leur bateau.
D'accord, on te le souhaite en tout cas. Du coup, c'est la fin de l'épisode, donc et je vais commencer par te remercier parce que c'était un format un peu spécial puisqu'on était à distance puisque tu es toujours en Corse, dans le beau pays corse. Donc merci d'avoir pris le temps d'enregistrer ce podcast et de nous éclairer un peu sur toute ton expérience et sur ta vision du maritime.
Eh bien, merci à vous de m'avoir porté de l'attention, c'est très chouette.
Avec grand plaisir. Et puis pour tous les auditeurs et toutes les personnes qui nous écoutent, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série Vocation Maritime au lycée maritime de Cibourg. Et je vous dis à bientôt.
À bientôt.